Bonjour frères et sœurs, je vous souhaite à tous un excellent sabbat. Au moment de notre baptême dans l'église de Dieu, le pasteur qui nous a baptisés nous a demandé si nous nous étions repentis de nos péchés et si on acceptait Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Et nous avons répondu dans l'affirmatif. Ensuite, il a dit quelque chose du genre, « Suite à votre repentir de vos péchés, le péché étant la transgression de la loi sainte, juste et parfaite de Dieu, et suite à votre acceptation de Jésus-Christ en tant que votre sauveur personnel, votre Seigneur et Maître, votre souverain sacrificateur et votre roi des rois à venir bientôt, je vous baptise » et la formule continue. Nous acceptons Jésus-Christ en tant que notre, entre autres choses, notre souverain sacrificateur. Et je voudrais me pencher sur cette phrase, sur cette fonction aujourd'hui. Nous sommes dans la période à l'approche de la Pâque et nous pensons à la signification du baptême et notre progrès dans l'engagement du baptême. Je voudrais que nous nous tournions vers cette idée du souverain sacrificateur. Qu'est-ce qu'un souverain sacrificateur? Quand est-ce que cela a commencé? Quelles étaient les fonctions du souverain sacrificateur? Et comment est-ce que cela nous touche? Qu'est-ce que nous devons comprendre à la lumière de ce que la Bible dit à propos du souverain sacrificateur? Alors nous allons commencer au début. Le souverain sacrificateur, le poste, a été créé dans Exode chapitre 28. Alors peu de temps après l'exode de l'Égypte. Exode chapitre 28, rapportons-nous-y. Et nous allons étudier ce sujet du souverain sacrificateur. Nous prendrons quelques exemples de leurs fonctions dans l'histoire de l'Ancien Testament. Et nous verrons ensuite pourquoi Jésus-Christ est devenu notre souverain sacrificateur aujourd'hui. Exode chapitre 28, verset 1. « Fais approcher de toi Aaron ton frère, Dieu parle à Moïse, et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront des vêtements d'Aaron afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront, un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Et ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. » Donc, voilà, Aaron et la famille d'Aaron allaient devenir les sacrificateurs en Israël. Et ça passait de père en fils. Ça devait être un descendant d'Aaron pour pouvoir être le souverain sacrificateur. Et d'autres instructions sont données à propos de ses vêtements. Dieu est entré dans beaucoup de détails pour marquer la dignité et l'importance de ce rôle de souverain sacrificateur. Pour marquer la différence entre ces personnes, entre cette famille et le reste d'Israël, dans les instructions que nous avons concernant les sacrificateurs, dans Exode chapitre 29, cette fois-ci, verset 31, parmi les éléments de la consécration des sacrificateurs, nous lisons ceci. Tu prendras le bélier de consécration et tu en feras cuire la chair dans un lieu saint. Aaron et ses fils mangeront à l'entrée de la tente d'assignation la chair du bélier et le pain qui sera dans la corbeille. Ils mangeront ainsi ce qui aura servi d'expiation, afin qu'il soit consacré et sanctifié. Nul étranger n'en mangera, car ce sont les choses saintes. S'il reste de la chair de consécration et du pain jusqu'au matin, tu brûleras dans le feu ce qui restera. On ne le mangera point, car c'est une chose sainte. Il y avait un sacrifice et un repas spécial tiré de l'animal qui a été offert à Dieu, un repas réservé au sacrificateur. Personne d'autre en Israël ne pouvait en manger. Il y avait une différence cependant entre la consécration du souverain sacrificateur et les autres sacrificateurs. Surtout l'huile. L'huile était versée, l'huile sainte était versée sur la tête du souverain sacrificateur et seulement sur les vêtements, on ne versait pas sur la tête des autres sacrificateurs, des fils d'Aaron. Et dans Exode chapitre 30, il est question de cette huile sainte de consécration. Exode chapitre 30, verset 22. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends des meilleurs aromates, 500 sicles de myrrhe et celles qui coulent de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié, soit 250 sicles de cinnamome aromatique, 250 sicles de roseau aromatique, 500 sicles de casse, selon le sicle du sanctuaire, et un hin d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur, ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu en oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage, la table et tous mes ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Tu sanctifieras ces choses et ils seront très saints. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu oindras Aaron et ses fils, et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. » Dieu était très précis dans les instructions qu'il donnait pour cette huile sainte. Il a donné exactement les ingrédients et combien. Et on ne pouvait oindre autre chose que les choses qui étaient consacrées. C'est marqué un peu plus loin que on ne devait pas, si quelqu'un prenait de ce parfum et l'utilisait sur soi-même, il était exclu, il était puni pour cela, puni de mort, si je me souviens bien. Nous avons une référence à cela dans Psaume 133, la consécration d'Aaron. Nous chantons ce cantique parfois, Psaume 133, verset 1. Il n'y a que trois versets. Psaume 133. Verset 1, Cantique des degrés de David. Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour éternité. On versait beaucoup d'huile sur Aaron. Ça descendait, ça coulait sur sa barbe et ça arrivait même jusqu'à ses vêtements. C'est ainsi que le souverain sacrificateur, le premier qui était Aaron, c'est ainsi qu'il était consacré. Et si vous voulez prendre le temps plus tard, vous pouvez voir les quelques différences dans la cérémonie de consécration entre Aaron et ses fils, les autres sacrificateurs. Je vais maintenant prendre une citation du dictionnaire biblique Laxam, à propos du souverain sacrificateur. Dans l'Ancien Testament, le but principal du souverain sacrificateur était de servir de représentant et de médiateur entre le peuple et Yahvé. L'office a été établi avec Aaron, le frère de Moïse, et les souverains sacrificateurs étaient les premiers sacrificateurs au tabernacle, puis plus tard au temple. Zadok a servi comme souverain sacrificateur dans le temple pendant le règne de Salomon. Il était là pendant la fin du règne de David également. Le souverain sacrificateur servait plusieurs buts qui étaient cruciaux pour le culte israélite. C'était la responsabilité du souverain sacrificateur de veiller à ce que l'alliance soit appliquée et d'ordonner aux gens d'accomplir les devoirs du temple et les devoirs de la loi de Moïse. En tant que représentant de la nation d'Israël, le souverain sacrificateur avait la lourde responsabilité de diriger le cœur du peuple vers Dieu et l'accomplissement de son alliance. Certaines des principales responsabilités du souverain sacrificateur étaient la gestion régulière des sacrifices et des offrandes, la bénédiction des gens, et l'entrée annuelle dans le lieu très saint du tabernacle et le temple pendant le jour des expiations. De nombreux devoirs, actions et même le style vestimentaire unique qui était exigé du souverain sacrificateur étaient hautement symboliques. La fonction et les responsabilités du souverain sacrificateur étaient souvent familiales. Comme j'ai dit, ça descendait de père en fils. Et il cite Lévitique 16, verset 32, et Exode 29, verset 29. Généralement, la fonction de souverain sacrificateur était assumée par le fils du souverain sacrificateur lorsqu'il n'était plus en mesure de remplir ses fonctions ou après sa mort. La principale manière dont un souverain sacrificateur était évalué dans les Écritures était en termes d'amour et de loyauté envers Yahweh et de zèle avec lequel il tenait à l'observance de l'Alliance. Maintenant, presque tout de suite, dans la famille d'Aaron, nous avons découvert, le monde a découvert, qu'il y avait des hommes dignes de ce poste, et il y avait d'autres hommes qui descendaient du souverain sacrificateur, mais qui étaient indignes de ce poste. Et parfois, selon ce qu'ils faisaient, selon l'erreur ou le péché qu'ils commettaient, ils étaient parfois même punis de mort. Dieu ne jouait pas avec les questions de son culte et avec les fonctions des sacrificateurs. Nous avons un exemple très frappant dans Lévitique chapitre 10. Lévitique chapitre 10. À partir du verset 1. Nous avons déjà lu que Aaron avait quatre fils et les quatre étaient consacrés, étaient ordonnés pour servir comme sacrificateurs. Deux d'entre eux se sont montrés assez rapidement indignes de cette grande responsabilité. Il s'agit de Nadab et Abihu, des noms que nous avons lus tout à l'heure. Lévitique chapitre 10, verset 1. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger et qui ne leur avait point ordonné. Il y avait un feu sacré qui devait rester allumé pour ses fonctions. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Ça, c'était une faute qu'ils ne devaient pas commettre. Comme j'ai dit, Dieu ne prenait pas, il prenait très au sérieux plutôt, une obéissance détaillée et pointilleuse de ses instructions concernant les offrandes et les sacrifices. Moïse dit à Aaron, « C'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il dit, « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. » Aaron garda le silence. En fait, j'ai pas pris le temps de le noter, mais les sacrificateurs avaient de grandes responsabilités. Ils n'osaient pas toucher un corps mort, même leurs parents, ils n'avaient pas le droit. Ils ne devaient jamais déshonorer ou enlever de l'honneur et de la gloire à leurs vêtements. Ils devaient toujours être conscients de leur rôle à jouer. Aaron garda le silence. Et Moïse appela Michaël et Elzaphan, fils d'Uziel, oncle d'Aaron, et leur dit, « Approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire, loin du camp. » Ils s'approchèrent et les emportèrent dans leur tunique hors du camp, comme Moïse l'avait dit. Moïse dit à Aaron, à Éléazar et à Ithamar, fils d'Aaron, « Vous ne découvrirez point vos têtes et vous ne déchirerez point vos vêtements, de peur que vous ne me mouriez, et que l'Éternel ne s'irrite contre toute l'assemblée. » Il ne devait pas mener deuil comme on ferait, comme ferait quelqu'un d'autre, un autre citoyen du pays. Il devait toujours garder à l'esprit le rôle qu'il jouait, de représenter Dieu et de glorifier Dieu. Laissez vos frères, toute la maison d'Israël, pleurer sur l'embrasement que l'Éternel a allumé. Vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez, car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous. » Ils firent ce que Moïse avait dit. Voilà, donc, une leçon très rapide, il faut prendre ça très au sérieux, et même Moïse a expliqué, vous ne pouvez pas agir comme les autres, vous avez perdu vos frères et vos fils, ils ont transgressé les instructions de Dieu, mais vous ne devez pas mener deuil, parce que vous êtes les sacrificateurs de Dieu. Dieu a donné, par la suite, des instructions plus précises concernant le rôle des sacrificateurs, et y compris le souverain sacrificateur. Prenons Lévitique chapitre 21 pour développer ce sujet davantage. Lévitique chapitre 21, verset 1. Est-ce que j'ai bien noté? Lévitique, c'est peut-être Lévitique 11, je vais regarder. peut-être mal noté. Non. Voilà, non, c'est bien Lévitique 21. C'est sans doute les versets que j'ai pas bien notés. Commençons dans Lévitique chapitre 21. L'Éternel dit à Moïse, « Parle au sacrificateur, fils d'Aaron, et tu leur diras, « Un sacrificateur ne se rendra point impur parmi son peuple pour un mort, excepté pour ses plus proches parents, pour sa mère, pour son père, pour son fils, pour son frère, et aussi pour sa sœur encore vierge, qui le touche de près lorsque elle n'est pas mariée. Chef parmi son peuple, il ne se rendra point impur et en se profanant. » Donc il fallait faire très attention au côté cérémoniel, à la pureté cérémonielle dans leurs actions. Les sacrificateurs ne se feront point de tonsures sur la tête. Ils ne raseront point les coins de leur barbe. Ils ne feront point d'incisions dans leur chair. Ils seront saints pour leur Dieu et ils ne profaneront pas le nom de leur Dieu. Car ils offrent à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, l'aliment de leur Dieu, ils seront saints. Ils ne prendront point une femme prostituée ou déshonorée. Ils ne prendront point une femme répudiée par son mari, car ils sont saints pour leur Dieu. Tu regarderas un sacrificateur comme saint, car il offre l'aliment de ton Dieu. Il sera saint pour toi, car je suis saint, moi l'Éternel qui vous sanctifie. En particulier, regardons le verset 10. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel on a été répandu l'huile d'onction, donc c'est ça la différence, le souverain sacrificateur reçoit l'huile d'onction sur sa tête, et qui a été consacré et revêtu des vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Il n'ira vers aucun mort, il ne se rendra point impur, ni pour son père, ni pour sa mère. Donc le souverain sacrificateur devait aller encore plus loin que les autres sacrificateurs. Il ne pouvait pas toucher le corps mort même de ses parents. Il ne sortira point du sanctuaire, et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu, car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel. Il prendra pour femme une vierge, il ne prendra ni une veuve, ni une femme répudiée, ni une femme déshonorée ou prostituée, mais il prendra pour femme une vierge parmi son peuple. Il ne déshonorera point sa postérité parmi son peuple, car je suis l'Éternel qui le sanctifie. Donc des règlements très stricts en ce qui concerne le comportement, le vêtement des sacrificateurs et en particulier du souverain sacrificateur. Il n'y en avait qu'un à la fois de ce souverain sacrificateur. Maintenant, nous avons plusieurs exemples dans la Bible qui montrent de très bons souverains sacrificateurs, et c'est surtout cela sur lequel nous allons nous pencher aujourd'hui, parce que nous allons faire le lien entre le souverain sacrificateur et Jésus-Christ, qui est maintenant l'ultime souverain sacrificateur. Nous voulons donc prendre de bons exemples, plutôt que des mauvais, mais des sacrificateurs étaient humains, et il y en avait des rebelles et des méchants aussi, parfois. D'ailleurs, c'est Caïphe, dans le Nouveau Testament, qui a arrangé la mort de Jésus-Christ, et il était le souverain sacrificateur. Alors, il y en avait de mauvais également, mais il y en avait de très courageux et exemplaires. Dans Nombre 25, il y a une histoire que nous connaissons tous, probablement, mais vous ne savez peut-être pas, ou ne vous saviez pas, qu'il y avait un lien avec le souverain sacrificateur. Nombre chapitre 25, verset 1. Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple, et fait pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'ils pleuraient à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme, par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il en eut 24 000 qui moururent de la plaie. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux, et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. » Et puis on donne le nom. Phiné était fils du souverain sacrificateur Éléazar. Aaron était déjà décédé à ce moment-là. Et il était animé d'un zèle pour l'Éternel. C'est ce qu'on voulait voir dans les souverains sacrificateurs. Il veillait à l'obéissance à Dieu et il n'a pas hésité à intervenir personnellement s'il le fallait pour mettre fin à cette idolâtrie. Selon Exode chapitre 6 verset 25, c'est marqué qu'il était le chef de la maison de son père, ce qui veut dire qu'à la mort d'Élézard, c'est Phiné qui est devenu le souverain sacrificateur. Et il était vraiment exemplaire dans son audace et dans son courage pour faire respecter la volonté de Dieu. Nous avons un autre exemple d'un très bon souverain sacrificateur dans 2 Samuel chapitre 15. 2 Samuel chapitre 15. Nous sommes dans la période ici où David devait s'enfuir devant Absalom. Et c'est très intéressant ce que le souverain sacrificateur a fait à ce moment-là. 2 Samuel, pardon, chapitre 15, verset 13. Quelqu'un vint informer David et lui dit, « Le cœur des hommes d'Israël s'est détourné vers Absalom. » Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, « Levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. » Hâtez-vous de partir, sinon il ne tardera pas à nous atteindre et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. Les serviteurs du roi lui dirent, tes serviteurs feront tout ce que voudra mon seigneur le roi. Le roi sortit et toute sa maison le suivait. Il laissa 10 concubines pour garder la maison. Le roi sortit et tout le peuple le suivait et ils s'arrêtèrent à la dernière maison. Tous ses serviteurs, tous les Kérithiens, tous les Pélétiens passèrent à ses côtés, et tous les Gathiens, c'est-à-dire les Philistins de Gath, tous les Kétiens, les Pélétiens, c'était des Philistins qui s'étaient ralliés à David. Ça, c'est une histoire très intéressante qu'on traitera un autre jour. Mais parmi ses serviteurs les plus fidèles étaient des Philistins. Au nombre de 600 hommes venus de Gath à sa suite, passèrent devant le roi. Le roi dit à Ittaï de Gath, « Pourquoi viendrais-tu aussi avec nous? Retourne et reste avec le roi, car tu es étranger, et même tu as été amené de ton pays. Tu es arrivé d'hier, et aujourd'hui je te ferai errer avec nous ça et là, quand je ne sais moi-même où je vais. Retourne et amène tes frères avec toi, que l'Éternel use envers toi de bonté et de fidélité. » Ittaï répondit au roi, « L'Éternel est vivant, et mon seigneur le roi est vivant. Au lieu où sera mon seigneur le roi, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. » David dit alors à Ittaï, passe. Et Ittaï de Gath passa avec tous ses gens et avec tous les enfants qui étaient avec lui. Toute la contrée était en larmes et l'on poussait de grands cris au passage de tout le peuple. Le roi passa le torrent de Cédron et tout le peuple vis-à-vis du chemin qui mène au désert. Tsadok, le souverain sacrificateur, Tsadok était aussi là et avec lui tous les Lévites, portant l'arche de l'Alliance. intéressant le courage de ces Lévites, n'est-ce pas, et le souverain sacrificateur. David doit s'enfuir, Absalom risque de les tuer, et voilà Tzadok à côté de David, et non seulement ça, mais il a fait venir l'Arche de l'Alliance aussi, pour marquer qui était le véritable autorité selon Dieu. Il était là, tous les Lévites portant l'Arche de l'Alliance, et ils posèrent l'Arche de Dieu, et Abiathar montait pendant que tout le peuple achevait de sortir de la ville. Le roi dit à Tzadok, reporte l'Arche de Dieu dans la ville, si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me ramènera et il me fera voir l'Arche et sa demeure. Et finalement, Tzadok et les Lévites ramènent l'Arche de l'Alliance dans la ville de Jérusalem. Et ils ont travaillé avec, on va dire, un espion qui était du côté de David. Ils ont fait venir des informations à David pour aider à sauver sa vie. Une première leçon que nous voyons ici, donc, à propos du souverain sacrificateur, était un bon souverain sacrificateur, appuyer l'autorité légitime. Servez Dieu, servez celui que Dieu avait établi en tant que roi. Et il appuyait l'autorité légitime. Ça, c'est important. Et plus tard, si vous voulez, encore une fois, je ne prends pas le temps, mais dans 1 roi chapitre 1, Tzadok a joué un rôle important dans le couronnement de Salomon, afin de déjouer le plan d'Adonijah, de saisir le trône. David a fait venir Tzadok, ils ont décidé quoi faire, ils ont tout mis en marche, et si ce n'était pour Tzadok et ceux qui travaillent avec lui, il est possible que Salomon ne soit pas devenu roi en Juda. Le souverain sacrificateur appuyait l'autorité du roi choisi par Dieu, et les rois appuyaient aussi l'autorité du souverain sacrificateur. Les sacrificateurs et les Lévites avaient plusieurs rôles importants à jouer dans l'éducation spirituelle du peuple physique de Dieu à l'époque. Par exemple, nous avons un exemple dans 2 Chroniques, chapitre 17. 2 Chroniques, chapitre 17. Pendant le règne de Josaphat. 2 Chroniques 17, verset 7. Le troisième année de son règne de Josaphat, il chargea les chefs Ben-Haïl, Abdias, Zacharie, Nathanaël et Michée d'aller enseigner dans les villes du Juda. Il envoya avec eux les Lévites, Shemaïja, Netania, Zabadia, Asaël, Shemiramoth, Jonathan, Adonijah, Tabuya, Tob Adonijah, Lévites et les sacrificateurs Elishama et Joram. Ils enseignèrent dans Juda, ayant avec eux le livre de la loi d'Israël. Ils parcouraient toutes les villes du Juda, et ils enseignèrent parmi le peuple. Nous avons ces sacrificateurs qui allaient avec eux. Ils parcouraient le pays de Juda pour enseigner. Ils faisaient peut-être des séminaires, on dirait aujourd'hui, des conférences, et tout le monde venait, et ils expliquaient la loi. Ils expliquaient comment les gens devaient faire pour obéir à l'Alliance, aux lois de l'Alliance. Et Dieu a honoré cela. Verset 10, regardez le résultat. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des pays qui environnaient Juda, et ils ne firent point la guerre à Josaphat. Des Philistins apportèrent à Josaphat des présents et un tribut en argent, et les Arabes lui amenaient aussi du bétail, 7 700 béliers et 7 700 boucs. Josaphat s'élevait au plus haut degré de grandeur, parce qu'il prenait très à cœur d'instruire le peuple dans ce qui était nécessaire pour obéir à Dieu et respecter l'alliance dans laquelle Israël était entré avec l'Éternel au mont Sinaï. Donc ils avaient un rôle important à jouer dans cette éducation. Deux chapitres plus loin, dans 2 Chroniques chapitre 19, 2 Chroniques 19, Josaphat veille pendant son règne à maintenir l'obéissance à Dieu dans toute la nation. Il enseigne et il établit les autorités pour faire en sorte que tout le monde obéisse. Verset 4 de 2 Chroniques 19. Josaphat resta à Jérusalem, puis fit encore une tournée parmi le peuple depuis Beersheba jusqu'à la montagne d'Éphraïm, et les ramena à l'Éternel, le Dieu de leur père. Il établit des juges dans toutes les villes fortes du pays de Juda, dans chaque ville, et il dit aux juges, « Prenez garde à ce que vous ferez, car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcez des jugements, c'est pour l'Éternel qui sera près de vous quand vous les prononcerez. Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous, veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel notre Dieu ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de présents. » Quand on fut de retour à Jérusalem, Josaphat y établit aussi, pour les jugements de l'Éternel et pour les contestations, des Lévites, des sacrificateurs et des chefs de maison paternelle d'Israël. Et voici les ordres qu'il leur donna. Vous agirez de la manière suivante dans la crainte de l'Éternel, avec fidélité et avec intégrité de cœur. Dans toute contestation qui vous sera soumise par vos frères établis dans leur ville, relativement à un meurtre, à une loi, à un commandement, à des préceptes, à des ordonnances, vous les éclairerez, afin qu'ils ne se rendent pas coupables envers l'Éternel, et que sa colère n'éclate pas sur vous et sur vos frères. C'est ainsi que vous agirez, et vous ne serez point coupables. Et voici, vous avez à votre tête Amaria, le souverain sacrificateur. Si c'est une question de la loi, vous demandez ça au souverain sacrificateur. Il est capable de vous éclairer, de vous expliquer comment il faut rendre un jugement. Vous avez à votre tête Amaria, le souverain sacrificateur, pour toutes les affaires de l'Éternel. Et Zébadia, fils d'Ismaël, chef de la maison du Juda, pour toutes les affaires du roi. Et vous avez devant vous les Lévites comme magistrats. Fortifiez-vous et agissez, et que l'Éternel soit avec celui qui fera le bien. Donc, il jouait un rôle important dans l'éducation du peuple. Il répondait aux questions, il enseignait l'alliance à ses frères et à ses sœurs. Et parfois, le souverain sacrificateur devait agir contre un roi si le roi se comportait mal. Et nous avons un exemple assez frappant de cela pendant le règne du roi Ozias, qui se trouve dans 2 Chroniques chapitre 26. Il fallait du courage parfois pour être le souverain sacrificateur, au moins pour être un bon souverain sacrificateur. 2 Chroniques chapitre 26, à partir du verset 16, en parlant du roi Ozias. « Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 24 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux, qui s'opposaient au roi Ozias et lui dirent, « Tu n'as pas le droit, Ozias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché. » Dans ces années-là, quand le roi avait le droit de vie et de mort sur n'importe qui, pouvait prononcer une sentence de mort comme ça, ces hommes-là étaient effectivement courageux de venir devant le roi pour dire « Sors d'ici, tu n'as pas le droit de faire ce que tu es en train de faire. » « Sors du sanctuaire, car tu commets un péché et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. » La colère s'empara d'Ozias, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, il allait peut-être agir contre eux, eh bien, la lèpre éclata sur son front, en présence des sacrificateurs, dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui, et voici, il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors, et lui-même se hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Ozias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotham, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Et c'est le mot de la fin pour Ozias. Il a vécu en lépreux parce qu'il osait transgresser ce que Dieu avait dit à propos des offrandes. Il était roi, il s'estimait pouvoir tout faire, c'est comme cela que faisaient les rois le plus souvent à cette époque-là. Mais Dieu est intervenu pour épauler ce que le souverain sacrificateur et ses adjoints, ce qu'ils ont dit. Ils avaient raison. Il avait franchi une ligne qu'il ne devait pas franchir. Un autre souverain sacrificateur a sauvé la vie du roi quand il était bébé, quand il était tout jeune. Et cette histoire-là, nous lisons dans 2 Rois, chapitre 11. 2 Rois, chapitre 11. Le souverain sacrificateur était intimement lié dans le fonctionnement des royaumes à l'époque, en particulier le royaume de Juda, après la scission. Alors, 2 Rois, chapitre 11, à partir du verset 1, lisons cette histoire qui est vraiment fascinante également. Athalie, mère d'Akazia, voyant que son fils était mort, il est mort dans une bataille, se leva et fit périr toute la race royale. Elle a fait assassiner tous les descendants de David qui étaient présents. Mais Josheba, fille du roi Joram, sœur d'Akazia, prit Joas, fils d'Akazia, et l'enleva du milieu des fils du roi quand on les fit mourir. Elle le mit avec sa nourrice dans la chambre des lits. Il fut ainsi dérobé au regard d'Athalie et ne fut point mis à mort. Il resta 6 ans caché avec Josheba dans la maison de l'Éternel, et c'était Athalie qui régnait dans le pays. Le 7e année, Jehojada, le souverain sacrificateur, envoya chercher les chefs de centaines et les Kérétiens et les coureurs, et il fit venir auprès de lui dans la maison de l'Éternel. Il traita alliance avec eux et les fit jurer sur la maison de l'Éternel, et il leur montra le fils du roi. Puis il leur donna ses ordres en disant, « Voici ce que vous ferez. Parmi ceux d'entre vous qui commencent leur service le jour du sabbat, un tiers doit monter la garde à la maison du roi, un tiers à la porte de Sûr, et un tiers à la porte derrière les coureurs. Vous veillerez à la garde de la maison de manière à en empêcher l'entrée. Vos deux autres divisions, tous ceux qui sortent de leur service le jour du sabbat, feront la garde de la maison de l'Éternel auprès du roi. Vous entourerez le roi de toutes parts, chacun les armes à la main, et l'on donnera la mort à quiconque s'avancera dans les rangs. Vous serez près du roi quand il sortira et quand il entrera. » Les chefs des centaines exécutèrent tous les ordres qu'avait donné le sacrificateur Jehojada. Ils prirent chacun leurs gens, ceux qui entraient en service et ceux qui sortaient de service le jour du sabbat, et ils se rendirent vers le sacrificateur Jehojada. Le sacrificateur remit aux chefs des centaines des lances et des boucliers qui provenaient du roi David et qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel. Ce n'étaient pas des soldats, c'étaient des sacrificateurs, des lévites. Ils n'avaient pas d'armes. Et là, il en a pris que David avait mis dans la maison de l'Éternel. Les coureurs, chacun les armes à la main, entourèrent le roi, et en se plaçant depuis le côté droit jusqu'au côté gauche de la maison, près de l'autel et près de la maison. Le sacrificateur fit avancer le fils du roi, et ils mirent sur lui le diadème et le témoignage, et l'établirent au roi, loignirent, et frappant les mains, ils dirent, « Vive le roi !» Athalie entendit le bruit des coureurs et du peuple, et elle vint vers le peuple à la maison de l'Éternel. Elle regarda, et voici le roi se tenait sur l'estrade, selon l'usage. Les chefs et les trompettes étaient près du roi, et tout le peuple du pays était dans la joie, et l'on sonnait des trompettes. Athalie déchira ses vêtements et cria, « Conspiration, conspiration !» Alors le sacrificateur Jehojada donna cet ordre au chef de centaines qui était à la tête de l'armée. « Faites-la sortir en dehors des rangs et tuez par l'épée quiconque la suivra. » Car le sacrificateur avait dit qu'elle ne soit pas mise à mort dans la maison de l'Éternel. On lui fit place et elle se rendit à la maison du roi par le chemin de l'entrée des chevaux. C'est là qu'elle fut tuée. Jehojada traita entre l'Éternel, le roi et le peuple l'alliance par laquelle il devait être le peuple de l'Éternel. Il établit aussi l'alliance entre le roi et le peuple. Et c'est une période de joie. Il fallait être courageux, il fallait savoir agir avec sagesse au bon moment. Et nous voyons que le rôle du souverain sacrificateur était vraiment important dans le fonctionnement de la nation et les changements de régime, on va dire. Donc ça, c'est la fin de Athalie et le rétablissement du royaume de David. Maintenant, il y a, ça c'est quelques exemples, j'aurais pu en prendre d'autres, mais nous voulons voir autre chose également. pendant toute la période de l'Ancien Testament, il y avait des indices ça et là qu'on devait s'attendre à voir un meilleur souverain sacrificateur qui allait venir. Dans Zacharie chapitre 6, regardons Zacharie chapitre 6. Zacharie chapitre 6, à partir du verset 9, Zacharie est en train d'avoir une série de visions pour montrer différentes choses. Et à la fin de ces visions, nous tombons sur une vision qui n'est pas complètement une vision. En partie, c'est vrai, et en partie, c'est une vision de choses à venir. En partie, c'était des événements qui étaient en train d'avoir lieu à ce moment-là. Zacharie chapitre 6, verset 9. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Tu recevras les dons des captifs de Eldai, Tobija et Jedaija, et tu iras toi-même ce jour-là, tu iras dans la maison de Josias, fils de Sophonie, et ils se sont rendus en arrivant de Babylone. Tu prendras de l'argent et de l'or, et tu en feras des couronnes que tu mettras sur la tête de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur. Donc, tu dois couronner le souverain sacrificateur. Ils sont au retour de Babylone maintenant et ils vont se rétablir à Jérusalem. Il faut donc nommer le souverain sacrificateur et c'est Dieu qui a décidé qui ce serait. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Les couronnes sont pour Elem, Tobija, Judaïja et pour En, fils de Sophonie, en souvenir dans le temple de l'Éternel. Donc, Josué est établi en tant que souverain sacrificateur, mais il est prophétique qu'il y aura un autre sacrificateur qui s'appellera Germe, et il va s'asseoir sur le trône en tant que sacrificateur, mais aussi en tant que roi. Ce n'était pas le cas en ancien Israël. C'était toujours deux hommes distincts. Parce que les sacrificateurs devaient être de la lignée de Aaron, et les rois devaient être de la lignée de David. Et c'était deux postes différents. Mais dans cette prophétie donnée à Zacharie, nous avons un avant-goût d'un roi qui sera aussi sacrificateur. Il y aura une évolution dans ce système. Déjà, dans l'Ancien Testament, il y a ces indices que le sacerdoce va changer, que ça va être autre chose dans l'avenir et va se perfectionner. Je retourne au dictionnaire biblique de Lexham. Je cite, « Tout au long de l'Ancien Testament, il y a un espoir préfigurant et porteur d'un haut sacerdoce plus parfait qui peut représenter Yahweh efficacement et être un médiateur suffisant pour le peuple d'Israël, qui pourra vraiment remplir parfaitement le rôle nécessaire. Le modèle cyclique de la vie des bons et des mauvais grands prêtres ou souverains sacrificateurs montre clairement qu'aucun être humain ne peut assumer pleinement cette responsabilité. Donc, un indice, une promesse que quelque chose de meilleur allait se présenter. Dans Psaume 110, nous avons également un autre indice de ce changement dans le sacerdoce. Psaume 110, verset 1. Psaume 110, verset 1. De David, psaume, parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de sa puissance, domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchizedek. Le Seigneur à ta droite brise les rois au jour de sa colère, il exercera la justice parmi les nations, tout est plein de cadavres, il brise les têtes sur toute l'étendue du pays, il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. En parlant à son Seigneur, Dieu dit, tu es sacrificateur pour toujours, selon la manière de Melchizedek. Melchizedek, qui prédatait de loin Aaron, il était sacrificateur du Dieu Très-Haut, nous lisons dans son rencontre avec Abraham. Et là, nous avons une prophétie pour un événement dans l'avenir, quand le Seigneur de David, allait devenir sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. C'est une prophétie. Et nous avons l'explication de cette prophétie dans l'Épître aux Hébreux. C'est dans l'Épître aux Hébreux que nous avons le plus d'explications concernant le rôle de Jésus-Christ en tant que souverain sacrificateur. Alors, allons-y et voyons ce que nous pouvons apprendre à propos de son rôle dans nos vies en tant que notre souverain sacrificateur. Hébreux chapitre 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il est tenté, comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Nous avons un grand souverain sacrificateur, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a traversé les cieux. C'est une référence ici à comment le souverain sacrificateur physique, au moment de la fête des expiations, il traversait le tabernacle ou le temple. Il pouvait aller depuis l'entrée jusqu'au fond. Il traversait le tout. Mais Jésus-Christ n'a pas simplement traversé un bâtiment sur terre. Il a traversé les cieux pour se rendre dans la présence de Dieu. Pas une présence figurative comme dans le Saint des Saints, mais vraiment devant la présence de l'Éternel. Et c'est ici, il est marqué clairement que Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur, un grand souverain sacrificateur. Et les explications continuent, chapitre 5 maintenant, Hébreux chapitre 5, verset 1. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter les offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir de la compréhension pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Effectivement, quand nous voyons la fonction du souverain sacrificateur, il devait toujours, avant de faire autre chose, offrir un sacrifice pour le pardon de ses propres péchés, avant de pouvoir intervenir pour les péchés du peuple. Verset 4. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui », comme il dit encore ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek ». Le psaume que David a écrit était inspiré et prophétique. C'était prophétique de ce que Jésus-Christ allait accomplir, finalement. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. C'est répété encore. Nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus, et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. C'est un peu technique le sujet que nous traitons aujourd'hui, de voir la transition entre les souverains sacrificateurs historiques et le souverain sacrificateur d'aujourd'hui, selon l'ordre de Melchizedek, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui est notre grand souverain sacrificateur. Poursuivons au chapitre 7 maintenant. Essayons de comprendre encore davantage ce rôle de souverain sacrificateur. En effet, ce Melchizedek était roi de Salem, nous croyons que ça veut dire Jérusalem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, et il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, il le bénit, et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, et il est sans père, sans mère, sans généalogie, il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchizedek demeure sacrificateur à perpétuité. Vous connaissez l'explication biblique de qui était ce Melchizedek, c'est celui qui est devenu Jésus-Christ. Il a établi cet sacerdoce, selon Melchizedek, et il a assumé pleinement la fonction après sa mort et sa résurrection. Et c'est même marqué, Melchizedek est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est un autre, c'est la même personne finalement, le même être. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham. Il est béni celui, et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme, à l'époque, percevait encore la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham. Leur ancêtre, Abraham, a donné la dîme à Melchizedek et a reçu sa bénédiction. Car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchizedek alla au-devant d'Abraham. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek et non selon l'ordre d'Aaron? Si la perfection avait été possible, il n'aurait pas été nécessaire de faire un transfert, de passer à un autre sacerdoce. Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. De quelle loi parlions-nous? Des dîmes, principalement. Il y a un transfert. Maintenant, la dîme ne va plus aux Lévites, la dîme va aux serviteurs de Jésus-Christ, ses disciples qui accomplissent son œuvre. Descendons maintenant au verset 20. Et cela n'a pas eu lieu sans serment, car les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, c'est-à-dire Dieu n'a pas juré, mais Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, « Le Seigneur a juré, et il ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. » Encore une citation de Psaume 110, verset 4. Jésus est, par cela même, le garant d'une alliance plus excellente. Il est le garant d'une alliance plus excellente. Tout comme les souverains sacrificateurs anciens devaient veiller à l'accomplissement de l'ancienne alliance, Jésus est le garant de la nouvelle alliance, qui offre la vie éternelle en récompense, ce qui n'a jamais été offert aux Israélites. Mais maintenant, avec la nouvelle alliance, c'est les mêmes lois, mais les promesses sont meilleures. Et il est le garant. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Il sera toujours le souverain sacrificateur. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui était fait auprès de la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Il sera le souverain sacrificateur pour toujours. Poursuivons au chapitre 8, parce qu'il y a encore d'autres détails à glaner de ce que nous lisons. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Le véritable trône de Dieu et ceux qui l'entourent. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentaient les offrandes selon la loi. Il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti, lorsqu'il allait construire le tabernacle. Dieu lui a dit, et soin lui fut dit, de tout faire d'après le modèle qui a été montré sur la montagne. Parce que vous reproduisez ici un modèle de ce qui existe dans les cieux. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Pas de meilleures lois. Les lois spirituelles n'ont pas changé, ce sont toujours les mêmes. La nouvelle alliance est établie sur de meilleures promesses. Nous avons maintenant la promesse de la vie éternelle. À cause de ce que Jésus-Christ a fait en se sacrifiant, et à cause de ce qu'il fait actuellement en tant que notre souverain sacrificateur. Verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi non plus, je ne suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. » Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Cette alliance a été brisée et remplacée par une meilleure, maintenant une meilleure alliance avec de meilleures promesses. Et cette alliance, Jésus-Christ en est le garant, comme nous avons déjà lu. Lisons quelques versets également de Hébreux chapitre 9. Commençons au verset 11, Hébreux chapitre 9, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, et ont obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs, et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu puissant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sur la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. C'est par Jésus-Christ que cette nouvelle alliance est promulguée. C'est ça qui rend possible pour nous le fait non seulement d'avoir nos péchés pardonnés, mais de recevoir le don de la vie éternelle, le don gratuit de Dieu. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, c'est de léguer quelque chose après son décès. Ça n'entre pas en vigueur avant la mort du testataire. Un testament n'est pas valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'y a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Il fallait asperger de sang, il fallait sacrifier des animaux pour entériner la première alliance. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous ». Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles de culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'était vrai dans ce que l'on faisait symboliquement avec les sacrifices. Il fallait qu'un animal meure pour avoir la pureté de la chair, et il fallait que Jésus-Christ meure pour que nous ayons la pureté de nos péchés profondément et complètement, pureté de l'esprit. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellentes que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. C'est ce que faisait un souverain sacrificateur. Il paraissait symboliquement devant Dieu, à la place de tout le peuple qui était derrière. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y entrait, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire pour offrir un autre sang que le sien. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Effectivement, nous l'attendons maintenant pour notre salut. Notre changement viendra au retour de Jésus-Christ. C'est fascinant, cette histoire de souverain sacrificateur, comment Dieu a établi tout le côté symbolique de tout cela dans l'Ancien Testament, avec des indices que la plénitude serait remplie finalement dans la personne de Jésus-Christ, qui sera à la fois le roi et le souverain sacrificateur. Il joint ces deux fonctions pour nous. Il nous rapproche de Dieu, il plaide notre cause devant Dieu quand nous demandons pardon. Il est le lien entre les êtres humains qui sont appelés par Dieu et Dieu le Père. Et c'est grâce à lui que cette merveilleuse avenir va s'ouvrir devant nous au moment de son retour sur terre. Voilà, frères et sœurs, l'histoire du souverain sacrificateur. Et comment Jésus-Christ est devenu notre souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchizedek qu'il avait lui-même établi dans l'Ancien Testament. Il joue le rôle de médiateur, d'éducateur pour nous, de protecteur pour nous également. Il nous relie à Dieu le Père et il nous rapproche de lui. Il a accepté de verser son propre sang, non pas le sang des animaux, mais son propre sang pour payer l'amende de nos péchés. Il accomplit à notre égard ce qu'aucun autre sacrificateur n'aurait pu accomplir. Il est important pour nous de comprendre la signification de souverain sacrificateur et le fait que Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur. Je vous encourage à réfléchir sur ces symbolismes à l'approche de la Pâque et de remercier Dieu que nous avons un si grand souverain sacrificateur.